Il y a une question qui est que quand on est entrepreneur, et on sait, on en parle beaucoup autour de France Digital, il faut aussi trouver les talents, recruter l'équipe. Donc on sait que c'est un gros souci pratiquement sociétal hein, dans tout le monde du numérique en général, même si aujourd'hui il y a un peu une crise financière et on a appris qu'il y avait quelques licenciements dans la Silicon Valley, malgré tout. Les talents, c'est avoir suffisamment de talents, il y a une question, mais aussi comment est-ce qu'on choisit les bonnes personnes. Et je me posais la question que je te pose aussi au début d'un projet. Souvent on dit que les quelques personnes du début, espèce de petit commando de départ, même si ce ne sera peut-être pas celui qui sera encore présent aux manettes quelques années après, ce petit commando, c'est quand même celui qui donne, c'est la rampe de lancement, la direction, à la fois en termes de valeur, de compétences, d'énergie, etc. Comment est-ce qu'on fait ça et comment est-ce qu'on trouve ça?
Alors les Américains disent « will beats skills ». Donc la volonté est plus importante que les compétences. Et je pense qu'à ce stade-là, ce dont on a besoin, c'est effectivement d'une petite équipe soudée qui croit que ce truc-là va marcher, va exister, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles sur la route, c'est très très dur, et si on doute trop, douter c'est bien, ça permet d'être réaliste hein, et de faire des choses pas à pas. Mais si on doute trop au point d'abandonner et de ne pas vouloir continuer ou de ne pas penser qu'on peut arriver au bout, le jeu devient chaque jour de remotiver tout le monde, en fait, on n'arrive pas.
Tu perds l'énergie.
Tu perds une énergie de dingue. Donc, en fait, il faut des gens qui croient à fond à l'idée, comme toi. C'est ça qu'il faut trouver au début. Et en plus, après, s'ils ont les compétences, tant mieux. Mais la réalité, c'est qu'il y a tellement de choses à faire et il y a tellement de compétences différentes à avoir sur un projet quand il démarre que les exemples de nous tous dans l'équipe qui avons dû faire un petit peu tous les métiers à différents moments pour que le projet aboutisse est énorme. C'est-à-dire que si on avait pris des experts qui savaient faire un truc super bien, mais pas le petit truc à côté, en fait, le jour où il faut faire le petit truc à côté et qu'il n'y a personne qui sait le faire et qu'il y a un trou dans la raquette et que du coup le projet ne marche pas parce qu'il manque cette brique-là et que la personne n'est pas prête à sortir de son champ de compétences pour aller apprendre autre chose et faire ce qu'il faut faire pour que le projet marche, le projet ne marche pas. Donc en fait, par contre, quand tu as la volonté d'y arriver, tu es capable d'aller faire à peu près n'importe quel métier parce que tu te dis mon but, c'est de traverser de l'autre côté. Alors, si je n'y arrive pas avec une barque ou que je n'ai pas de barque, si je dois avancer, que je n'ai pas de rame, je vais prendre autre chose, je vais prendre mes mains, je vais prendre, je ne sais pas, un bâton, je vais toucher au sol. Et si l'autre, il te dit « Ah non, moi, je ne sais faire que de la rame avec cette forme-là et c'est tout. »
Et puis, ce n'est pas dans ma fiche de poste.
Alors, il ne faut pas que ça arrive, ça, parce que là, la fiche de poste, c'est juste on va arriver de l'autre côté, quoi. Donc maintenant, il faut juste tout faire.
Il y a un autre élément, je me permets, dans le livre, moi, que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est comment tu vas décider de poursuivre ou pas, en fait, et d'investir du temps ou pas avec un candidat. Et ce que tu dis, c'est à un moment donné, on revient toujours, en fin de compte, à son intention initiale. Donc, en fait, tu reviens à tes valeurs et à l'empathie. Et c'est ce qui est, en fait, ton moteur décisionnel.
Oui, c'est-à-dire que... Enfin, faut pas ignorer notre deuxième cerveau, le gut feeling, tu vois. Les Américains appellent ça gut feeling. Nous, c'est on n'a pas vraiment de mots pour ça, mais c'est ce qu'on ressent dans le ventre. Enfin, tu vois,
les Québécois vont l'inventer avant nous.
C'est vrai. Comment on dit gut feeling?
Non, je sais pas. Je dis vont l'inventer.
C'est ça. Avant que les Québécois nous doublent encore une fois.
Oui, mais en gros, c'est l'intuition.
Oui, c'est une forme d'intuition, mais c'est pas pareil. Gut feeling
le
et
ressenti,
intuition,
peut-être.
Ouais, mais tu vois, gut feeling, ça veut vraiment dire que, et on le sait, parce que des fois, on a des émotions qui naissent là. On n'a pas qu'un seul cerveau, en fait. Hein.
Oui, bien sûr.
Tu veux
on a
dire
des
que
émotions
c'est viscéral.
Qui viennent du ventre. C'est ça. Ça doit être ça le mot. C'est viscéral. Mais du coup, faut l'écouter aussi. C'est-à-dire que des fois, quand c'est extrêmement complexe, le cerveau qui est assez analytique n'y arrive pas. Il n'a pas ce sens-là. Et par contre, notre corps humain et toutes les perceptions, tout ce qu'on reçoit, étant plus complexe que ce qu'on connaît aujourd'hui, il y a d'autres parties de notre corps qui nous envoient des signaux. Il faut les écouter. Voilà.
Oui, mais je pense qu'en fait, la situation du will versus skill, moi j'appelais ça attitude versus compétence, et j'ai toujours privilégié, donc on se rejoint là-dessus, on n'en avait jamais parlé. Et c'est justement l'attitude, c'est quand même plus difficile de l'évaluer et c'est une partie un peu plus justement dans le feeling, alors que tu peux évaluer les skills, tu peux faire un test Excel, tu peux faire un test de code technique, tu peux poser des questions, faire des QCM, etc. Enfin bref, mais c'est vrai que la volonté, l'attitude, tu la ressens aussi en partie, c'est-à-dire c'est des capacités à bien se comporter, à aller loin, à pas abandonner, etc.
Vois aussi en entretien, moi ce que je recherche, c'est des gens qui ont des étoiles dans les yeux quand ils parlent du fait qu'ils vont te rejoindre. Tu vois, tu le vois bien. S'ils ont vraiment envie, et s'ils ont envie, une envie qui vient de, de tout leur être, quoi, tu vois, et ça se traduit, ça se voit dans les yeux par rapport à quelqu'un qui va juste sortir un pitch pour essayer de répondre à des arguments purement rationnels. Quelqu'un qui va vraiment vouloir rejoindre ton projet, tu vas le sentir, il va te motiver, quoi.
Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein, parce que quand on regarde un peu le monde du recrutement en général, on a vu là aujourd'hui beaucoup de plateformes et beaucoup de sociétés en fait disrupter totalement en fait le recrutement en disant on exite ce CV, on exite en fin de compte la technique et on est sur l'attitude, la capacité, l'envie de la personne avant même, et puis le reste on l'acquérera. Et en fait on voit bien qu'on a changé un peu le paradigme.
Oui, parce qu'en plus les choses à apprendre évoluent tellement vite que même si on arrive en connaissant des choses, il va falloir apprendre d'autres choses. Donc de toute manière, il faut être dans une attitude où on est prêt à aller se frotter à des matières qu'on n'a jamais faites avant.
Mais d'ailleurs, dans ta méthode pour attirer et accueillir les talents, bon, tu as 10 fils qui commencent par une belle annonce, éventuellement demander une vidéo enregistrée, prise de référence, rendez-vous, etc. Mais ça finit quand même presque par l'entretien final des fondeurs pour aller justement valider que ça correspond aux valeurs de l'entreprise et ces fameuses étoiles dans les yeux que vous allez chercher jusqu'à l'onboarding, qui est quand même le sujet d'après, où ça ne faut pas l'oublier.
Non, c'est sûr que l'onboarding, c'est très important. Tout le monde se souvient de son premier jour dans une boîte. Tout le monde. Et en fait, si tu rates cette belle opportunité de créer un beau souvenir pour la personne qui rejoint ton équipe, pour qui c'est une étape de vie importante, bah, tu n'as jamais d'occasion de te rattraper. Il y a une autre manière de le dire. T'as jamais deux fois l'opportunité de faire une première bonne impression.
Ouais. Mais du coup, est-ce qu'il y a une manière d'accueillir chez Blablacar avec quelque chose qui est mémorable peut-être, tu vois, une sorte de rituel que vous avez pour tous les collaborateurs, ou est-ce que c'est dû, alors, vous êtes beaucoup, mais personnalisé à chaque arrivée c'est...
Alors, il y a à la fois du contenu diffusé par chaque équipe pour bien comprendre comment fonctionne l'équipe. Il y a aussi la rencontre avec les différents managers des différents départements pour immédiatement avoir un contact humain et savoir qui fait quoi. Il y a aussi un carpool day, donc en fait où tu vas faire du covoiturage avec les autres qui viennent de rejoindre la boîte. Et donc tout le monde part faire un covoiturage.
Pour quelle destination ?
Ou faire un bus. Bah, c'est des villes, depuis le qui sont atteignables en une heure ou deux, tu vois, pour l'histoire de pouvoir faire facilement l'aller-retour dans la journée, ou tu vois, pour aller tester le produit sur le terrain et y compris retrouver les autres nouveaux qui viennent de rejoindre la boîte, je sais pas où, à Lille ou à Reims ou à Orléans, quand on part de Paris. Voilà, il y a différentes choses effectivement qui sont planifiées dans l'onboarding, qui font partie de l'immersion dans la culture et de l'accueil global que la société peut offrir.
Eh ben, tu viens de me donner une super idée pour chez nous.